La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume. Faut-il y voir un nouveau signe de l'exaspération, plutôt de la résignation qui depuis quelque temps semble gagner chaque fois un peu plus encore les électeurs appelés à désigner leurs représentants. Toujours est-il qu'à en croire les derniers sondages sortis des urnes hier, les élections législatives organisées en Albanie n'auront visiblement guère enthousiasmé les foules. Si le dernier comptage se confirme, la participation de 10 points inférieure au précédent scrutin serait tout simplement la plus faible enregistrée dans le pays depuis la chute du communisme. Plus d'un électeur sur deux n'a pas jugé utile de se déplacer et pourtant, précise le site d'ABC, l'enjeu de ces élections, rien de moins que la perspective de l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne, semblait a priori plutôt de nature à convaincre les électeurs de se déplacer. En vain donc, à présent, reste à savoir si le Parti socialiste, dont la victoire semble se dessiner, atteindra la majorité absolue des sièges, ce qui lui permettra d'éviter un gouvernement de coalition avec la droite, c'est en tous les cas ce que semble confirmer un ultime sondage mené par la chaîne de télévision Ora News. A l'inverse, eux avaient décidé hier de montrer leur unité et surtout leur détermination. Eux, ce sont les délégués du Parti social-démocrate allemand réunis en congrès à Dortmund pour entériner leur programme à 3 mois des législatives. Unité, combat et espoir. Voilà résumé en 3 mots ce matin sur le site du Spiegel Online. La ligne défendue par Martin Schulz pour relancer sa campagne. Tous les sondages prédisent aujourd'hui une large victoire de la CDU d'Angela Merkel. Le dernier publié hier donne les sociaux-démocrates à 15 points des conservateurs, de sorte que celui qui jusqu'ici avait évité les attaques ad hominem contre la chancelière a décidé de changer de registre en l'accusant, je cite, d'arrogance et de vouloir saper la démocratie. Et puis, toujours en Allemagne, Guillaume, les éditorialistes ne décolèrent pas après que le Parlement a adopté jeudi dernier une loi permettant aux autorités d'installer des logiciels de surveillance sur des ordinateurs et smartphones privés. Tout d'abord parce qu'il n'y avait aucune raison de légiférer ainsi à la va-vite avant la trêve estivale et sans réel débat, note le site de la Deutschlandfunk. Mais plus encore, renchérit la Süddeutsche, parce qu'il s'agit là non seulement d'une entrée par effraction dans la vie privée, mais aussi et surtout d'une atteinte aux droits individuels d'une ampleur jamais prévue par le code de procédure pénale.
Et puis un autre texte préparé dans le secret est lui aussi abondamment critiqué aux États-Unis cette fois-ci. Il s'agit du projet de réforme de la santé, Thomas.
Oui, pour le chroniqueur du Washington Post, ce projet de loi que les Républicains tente de faire passer au Sénat n'a finalement rien à voir avec la santé. C'est seulement la première étape, dit-il, d'un grand projet de redistribution de la richesse des plus pauvres vers les plus riches. Même analyse pour son confrère du New York Times. C'est tout simplement un projet de baisse d'impôts pour les plus riches qui va détruire des programmes cruciaux qui permettent aujourd'hui à des dizaines de millions de personnes d'accéder aux soins. En particulier, observe cette fois-ci The Los Angeles Times, cette proposition de réforme éliminerait des milliards de dollars qui aident les personnes handicapées à vivre dignement. À ce titre, des images choquantes de manifestants handicapés arrêtés lors d'une manif contre le plan santé de Trump ont été publiées dans la presse. On y voit certains militants menottés et d'autres évacués hors de leur fauteuil roulant. Autre polémique. Toujours aux États-Unis, Donald Trump a décidé samedi de ne pas accueillir le dîner de rupture du jeûne traditionnellement organisé à la Maison-Blanche pour commémorer le Ramadan, rapporte CNN. À la place, poursuit le site de la chaîne américaine, le président s'est contenté d'envoyer un communiqué de presse dans lequel il présente ses salutations chaleureuses à ceux qui célèbrent l'Aïd. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois depuis près de 20 ans que la Maison-Blanche n'accueille pas un tel dîner. Bill Clinton, George W. Bush, notamment au lendemain du 11 septembre, et Barack Obama, eux, n'avaient pas dérogé à cette règle, rappelle le site BuzzFeed.
Et puis une histoire vieille de 16 ans, celle-ci, la visite des chefs d'État russes dans la légendaire colonie de vacances Artek, située près d'Yalta sur les rives de la mer Noire.
Oui, la photo le montre en chemisette bleu ciel et jean délavé, la veste négligemment jetée sur l'épaule, lunettes d'aviateur sur le nez. Samedi, Vladimir Poutine était donc de sortie pour rencontrer les enfants de cette célèbre colonie, manger avec eux des blinis au réfectoire et partager un gâteau d'anniversaire. Problème, ce centre se trouve en Crimée, dans la péninsule annexée en 2014 par Moscou. Une visite qui a donc aussitôt provoqué l'ire de l'Ukraine, qui a fait notamment adresser une note au ministère des Affaires étrangères russe pour protester contre cette visite non coordonnée. Mais il est de notoriété publique que Moscou ne prête aucune attention à ces protestations, écrit le journal en ligne Vzgliad, proche du Kremlin. Car le président Poutine est dans son plein droit, dit-il, pour visiter toutes les régions de la Russie, y compris la Crimée.
Enfin, Vladimir Poutine, toujours lui à la une de la presse pour un documentaire déroutant autant de 4 heures d'entretien avec le réalisateur américain Oliver Stone.
Et le premier épisode des Conversations avec Monsieur Poutine sera diffusé à partir de ce soir sur France 3. 4 épisodes en tout pour un projet, un objet filmique difficile à cataloguer, nous prévient ce matin Le Temps, entre interviews subjectives, dialogues filmés et surtout entre interlocuteurs d'accord sur presque tout. Le réalisateur américain aux 4 Oscars laisse sans le contredire ni même le relancer le président russe, lui expliquer que les médias sont libres en Russie, que les homosexuels ne sont aucunement persécutés, qu'il a mis au pas les oligarques et qu'il n'y a rien d'illégal dans l'annexion de la Crimée. Alors on pourrait croire naïvement que l'Américain connaît mal ses dossiers russes, qu'il improvise, mais non. Il le confirme lui-même, Stone endosse pleinement la narration de Poutine, ne voyant pas de raison de ne pas le croire sur parole. Poutine, lui, y a surtout vu l'occasion d'occuper 4 heures d'antenne sur les chaînes du monde entier, adoubé par un réalisateur de renommée. En Russie, la tétralogie a été diffusée la semaine dernière sur la chaîne Pierre Vicanal, caisse de résonance assourdissante de l'idéologie officielle avec le succès qu'on imagine.